pour tenter de changer le résultat de la présidentielle de 2020. Un appel téléphonique a révélé que Donald Trump a suggéré au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, qu'il pourrait lui trouver 11 780 votes, assez pour dépasser Joe Biden et renverser la défaite de M. Trump dans l'État. Un procureur spécial enquête également sur son rôle dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. S'il est reconnu coupable à Miami, Trump pourrait faire face à une peine de prison.
Merci beaucoup, Lily. À présent, nos invités pour débattre de tout cela via Skype à New York, Mohamed Boyd, vous êtes analyste politique et professeur d'histoire à Manhattanville College. Nous aurons certainement d'un moment à l'autre Marilyn C. Frockle, qui est professeur à Howard University. Et à Dallas, nous avons Junior Bonpetit, partisan de l'ancien président Donald Trump, également très actif dans le milieu politique et républicain dans l'État de Texas. Alors, je vais démarrer avec vous, Mohamed Boyd. Quelle est un peu la portée historique de cette inculpation d'un ancien président des États-Unis, une première pour le pays?
Tout d'abord, il montre que aux États-Unis, nul n'est au-dessus de la loi. Et je pense que pour le commun des citoyens, c'est toujours rafraîchissant de se dire que les mêmes lois qui vous ennuient chaque jour peuvent aussi ennuyer les plus puissants, quels qu'ils soient. Ça, c'est sûrement la première chose que peut-être l'homme ordinaire peut en tirer. La deuxième chose, c'est l'idée que la puissance d'un homme est temporelle, et temporaire plutôt, c'est-à-dire qu'il y a un mandat, et que dès que ce mandat finit, cet individu devient un autre individu comme tous les autres. Et à partir de ce moment, les oligopoles du pouvoir, la capacité d'influencer les choses dans la structure elle-même cesse, et de ce point de vue-là aussi, ça c'est une leçon qu'on peut en tirer. Et troisièmement, maintenant, il y a un peu le géopolitique qui fait que un homme qui a une ambition d'être sur la scène politique pour toujours offre toujours le spectacle que n'importe quel sujet brûlant de l'actualité, il va essayer d'être au centre de ce sujet, de ce thème, et d'influencer la façon de voir cette actualité.
D'accord. Alors, je ne sais pas si nous avons la professeure Marilyn C. Frockle, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Alors, Junior, l'ancien président Donald Trump a refusé de restituer les documents après la notification des archives nationales, disant qu'il avait le droit de les garder. Pourquoi parler alors de motivation politique?
Merci Dia pour cette invitation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur, j'ai oublié le nom, a dit. Il devient un citoyen normal. Le citoyen normal s'applique à tout le monde. Donald Trump, président Obama, président Clinton, eux tous ont dû prendre les archives lorsqu'ils étaient présidents, sont partis avec ça. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi ces doubles standards de la justice? Vous voyez, alors, lorsque vous devenez un citoyen normal, appliquez-les à tout le monde. Alors, là, ces sentiments ou cette perception d'une motivation politique est légitime au sein de partisans de Donald Trump et des républicains en général. Pourquoi? Un, il y a des effets qui montrent ça. Premièrement, il y a la couverture médiatique qui est biaisée, vous voyez, qui présente des choses d'une manière sélective, défavorable au président Donald Trump. Ça a déjà commencé parce que lorsqu'il était déjà président, un président assis à la Maison Blanche qui a été bloqué aux réseaux sociaux. Vous voyez tout ce qui a été comme guerre montée contre lui. Et il y a aussi la guerre d'une certaine élite politique qui vit avec Donald Trump, où Donald Trump ne fait pas les choses comme eux ils voient, ils protègent leurs intérêts. L'exemple de la COVID-19, l'approche qu'a prôné Donald Trump, n'était pas une approche appréciée par l'élite politique. Et il y a aussi cette approche, ces combats avec ou ces complots avec cette bureaucratie gouvernementale qui se cache, qui sape tout ce qui est initiative de Donald Trump. Donc, nous voulons un état de droit. Et les États-Unis a toujours été un état de droit pour tout le monde. D'accord. Et président Trump, étant que président, a le droit avec la Constitution donne ses droits. Lorsqu'il prend les documents, les archives, il peut les déclassifier. Et il était déjà en plus avec les archives pour restituer. Et nous voyons tout un complot pour l'éliminer politiquement.
D'accord. Alors, Junior, nous avons le professeur Marie-Hélène Sifocle qui est avec nous au téléphone. Merci de nous rejoindre. Alors, vous l'avez entendu avec Junior, les partisans de l'ancien président évoquent le cas des emails de Hillary Clinton, le FBI qui avait conclu à une négligence dans la gestion d'informations confidentielles, mais n'avait pas recommandé des poursuites contre Mme Clinton. Les supporters de l'ancien président n'ont-ils pas raison ou ont-ils raison de soupçonner des motivations politiques ici?
Là, il ne s'agit pas de motivation politique, il s'agit simplement de faits. Alors, les faits sont tels que la ministre des Affaires étrangères, Hillary Clinton, avait des documents qui n'étaient pas confidentiels, qui n'étaient pas classifiés. Et qui sont devenus classifiés après qu'on les ait réquisitionnés. Ça, c'est un détail qui est extrêmement important. Dans le cas de l'ancien président Trump, il s'agit de documents qui n'avaient été classifiés en fait, qui étaient des documents très confidentiels et qui étaient des documents qui avaient trait à la sécurité même du pays et qui mettaient en danger, si toutefois ils étaient découverts, qui mettaient en danger la sécurité des troupes américaines à l'étranger. Donc ce sont là des faits qui sont extrêmement importants et que très souvent l'électorat de l'ancien président Trump omet quand il parle des deux situations.
Alors, professeur Mboy, ces poursuites ne risquent-elles pas de polariser davantage le pays, surtout que 76% des électeurs républicains pensent qu'elles ont des motivations politiques, ces poursuites?
Cette polarisation est là, elle ne va pas partir, elle va rester. Il y a une base républicaine, comme d'ailleurs une base démocrate, pour être un peu égale. Qui sont prêts à l'affrontement et qui jouent sur la violence verbale pour l'instant, de temps en temps une violence physique lorsqu'on se remémore évidemment le 6 janvier et d'autres incidents. Mais il est certain que la polarisation de ce pays est déjà très ancrée. Et on est parti pour des années dans cette direction. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs du côté des candidats républicains, parce que c'est là où on s'attend à avoir beaucoup de candidats derrière Trump. Il y a des gens, comme DeSantis, qui sont aussi polarisants que Trump lui-même. Donc ça va peut-être ajouter un petit degré à cette polarisation. Mais je ne pense pas que ce soit un effet créateur de cette polarisation. Cette polarisation est là et elle va rester.
D'accord. Professeur Sifocle, faut-il craindre que le débat politique ne prenne un peu le dessus sur les arguments juridiques et que la justice finalement en prenne un coup?
Alors, la justice, nous l'espérons, n'en prendra pas un coup. Les débats politiques, ils seront là. Ce sont des débats qui ne sont pas seulement politiques, ce sont des débats mettent l'accent sur cette espèce de fracture qu'il y a dans le pays entre ceux qui sont conservateurs et ceux qui ne le sont pas. Les conservateurs ont une certaine vision des choses que n'ont pas du tout les démocrates. le parti républicain n'est plus aussi le parti qui, républicain qui existait auparavant. Le nouveau parti républicain, c'est un parti républicain qui est, si vous voulez, l'otage de l'ancien président Trump. C'est un parti qui est devenu beaucoup plus extrémiste. Par exemple, on l'a vu en Floride, il y a même interdiction d'enseigner l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs américains, certains textes de Rosa Parks, de Martin Luther King sont interdits. Donc d'accord. Il s'agit là d'un débat qui va même au-delà des clivages politiques, qui a vraiment l'empreinte de clivage sociétal.
D'accord. Alors, avant d'aller aux commentaires Facebook, j'ignore, il est vrai que la majorité des républicains jugent que ces poursuites ont soubassement politique, mais au niveau de tous les électeurs confondus, 80% quand même estiment que si Trump gardait ses documents nucléaires, si c'est le cas, ce serait un risque pour la sécurité du pays. Et on sait que les républicains, en ce qui concerne la sécurité nationale, sont quand même connus pour être des grands défenseurs de cette sécurité nationale. Il n'y a pas un peu de contradiction? Expliquez-nous un peu.
Merci pour cette question, mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit la professeure Madame Marilyn, ce que les archives que détenait l'ancien président Donald Trump allaient entraver la sécurité nationale du pays. Mais que direz-vous de ce que Madame Clinton avait plus de 30 000 emails qu'elle a effacés? Que direz-vous de cela? Donc il ne faut pas qu'il y ait ce double standard. Que direz-vous de l'ancien président, vice-président Biden, alors qu'on a découvert les mêmes archives?
Mais si on peut aller sur la question de la sécurité nationale.
Oui. La sécurité nationale, pour revenir à cette question, ce que je disais, généralement les partis républicains, nous portons un aspect crucial et important, une priorité sur la sécurité nationale. Vous voyez, donc nous sommes là pour promouvoir une armée forte, la sécurité des frontières, la sécurité nucléaire. Nous avons le monde entier est maintenant à une menace nucléaire comme jamais auparavant. Avec ce qui se passe à l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine et la Russie, vous voyez, s'il y avait l'administration Trump, M. Poutine n'allait pas oser attaquer l'Ukraine.
Ouais, donc pourquoi les États-Unis, cette question des documents nucléaires ne pose pas problème à la base républicaine?
Mais parce que la base voit comment les traitements judiciaires, les accusations judiciaires à deux poids, deux mesures, la base n'est pas dupe, la base suit. Pourquoi des standards? Lorsque Clinton a fait ça, c'est dit, on n'avait pas de poursuites. Pourquoi on poursuit Donald Trump? Et ça a commencé depuis longtemps. Vous voyez, donc, d'accord. Tout ça, alors, c'est une accumulation de choses qui fait que la base républicaine, en général,
ne soutient pas. Ce débat en seconde partie, si vous le voulez bien.
Je voulais ajouter qu'il y a aussi le fait que Mme Clinton a tout de suite rendu à la justice tous les documents qu'elle avait, alors que ce n'est pas du tout le cas du président, de l'ancien président Trump, qui a de façon très manifeste entravé les efforts de la justice.
D'accord. Malheureusement, on sera obligé d'aller rapidement aux commentaires Facebook avant de revenir en seconde partie. Téléspectateur de Kinshasa, Ben Benoît, nous dit que les démocrates américains ne respectent pas les droits des opposants. Tout cela fragilise la grande puissance des États-Unis dans le monde et donne la force à l'ancien président Donald Trump, que Joe Biden trouve d'autres voies pour régler ses comptes. Las Gasek est à Dakar. Il dit, tout le monde reconnaît l'indépendance de la justice américaine et ceux qui prétendent que cette justice est instrumentalisée se trompent. Trump a eu une gestion monarchique du pouvoir et a isolé les États-Unis de la scène internationale. Et puis, Yao Marcelin Kofi à Abidjan écrit, les poursuites judiciaires à l'encontre de l'ancien président Donald Trump sont fondées, contrairement à ce qui se passe en Afrique, où la justice est utilisée par le parti au pouvoir pour exclure certains candidats sérieux d'une élection présidentielle. Débat à suivre sur Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum, qui revient après une courte pause.
Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère,
VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités à New York, le professeur Mohamed Mbodj, analyste politique, professeur d'histoire à Manhattanville College. Ici à Washington, le professeur à Howard University, Marilyn Sifokl, également analyste politique, et à Dallas, au Texas, Junior Bonpetit, partisan de l'ancien président Donald Trump, également très actif dans le milieu politique dans l'État du Texas. Alors, Mohamed Mbodj, comment ces dossiers judiciaires peuvent-ils influencer la course à la nomination républicaine?
À la nomination républicaine, en se présentant comme un martyr, comme le porte-flambeau visé par l'administration Biden et tous les autres, Trump va certainement caracoler en tête, non pas sur la base des politiques qu'il va proposer, ou en tout cas un tout petit peu sur ce côté de victimisation d'un régime. Deuxièmement, il y a un désir de revanche. C'est étonnant que même au Congrès américain, des représentants et des sénateurs américains parlent de revanche, comme si la politique était un instrument pour régler des comptes personnels. Mais
finalement, ça risque de profiter à Trump, tout ça, vous pensez?
Exactement. Absolument. Je pense que dans quelle que soit la façon dont ce dossier va être bouclé, Trump risque d'être le candidat républicain, ou en tout cas, il a le plus de chances de l'être. Et maintenant, va-t-il asseoir cette domination et jusqu'à la fin et se représenter contre Biden? C'est une question. Mais moi, personnellement, ce que je vois qui risque de se passer, c'est qu'à un moment donné, Trump va peut-être même à la limite s'estomper et pousser un candidat, et en négociant avec ce candidat son support, aucun républicain ne peut être élu président dans ce pays à ce moment-ci sans avoir l'assentiment de Trump, et à ce moment-là négocier un pardon, négocier un blocage des poursuites judiciaires. Donc il a un peu de fer au feu, sa victoire personnelle aux primaires, mais qui ne garantit pas sa victoire totale lorsque on sera dans les élections présidentielles elles-mêmes, ou alors supporter un candidat républicain en ayant un accord lié qui fait que ce candidat va le pardonner et va faire en sorte que toutes ces
gens... Au cas où il serait reconnu coupable.
Hein. Exact.
Oui. Alors, Marilyn Sifokl, comment voyez-vous la course républicaine en ce moment? Quand même, Trump semble galvanisé, de même que ses partisans.
Oui, il galvanise, il continue à galvaniser donc ses partisans, puisqu'il s'agit plus d'un culte en fait que de véritables programmes politiques. Il va continuer à galvaniser ses partisans. Toutefois, il y aura une espèce de césure, une coupure entre ceux parmi les républicains qui le soutiennent et qui pensent que tout est faux, que on ne devrait pas l'inculper et que on devrait complètement oublier l'affaire des centaines de documents qui ont été manipulés et chez lui à Mar-a-Lago. Et puis il y a d'autre part des candidats comme Chris Christie du New Jersey qui pensent que ces inculpations sont tout à fait fondées et qu'on devrait non seulement l'inculper, mais qu'il devrait payer pour le fait qu'il ait mis les troupes américaines en danger et tout le système de sécurité américain en danger. Donc ceux comme Chris Chris Christie pourront peut-être se détacher du lot. Et peut-être qu'ils vont eux-mêmes pouvoir essayer d'obtenir les voix des indépendants, les voix de certains républicains. Toutefois, Trump demeure la personne de proue au Parti républicain, malgré son inculpation, et ce qui est quand même assez grave.
J'ignore justement, je vous donne l'occasion de réagir à cela, mais comment est-ce que vous jugez les postures des candidats républicains et pourquoi cette prudence de leur part?
Les postures des candidats républicains.
Allez-y, j'ignore.
Non, je disais les postures des candidats républicains, c'est des positionnements personnels, des flatteries, parce qu'ils savent qu'il y a plus de 75 millions de personnes d'une grande base derrière l'ancien président Donald Trump. Et toutes ces personnes-là sont derrière lui, pas parce qu'on aimerait la tête de Donald Trump, mais c'est parce qu'on a vu la gouvernance de Donald Trump, on a vu ce qui a été ses policies, ce qu'il a implémenté dans ces pays dans 4 ans, et nous sommes derrière lui. Vous voyez, alors la différence. Ce qui s'est passé en 2020 et ce qui va se passer en 2024, la différence, c'est qu'en 2020, il y avait l'ancien président, l'ancien vice-président Biden qui n'avait pas un bilan présenté. Maintenant, en 2024, il y aura bilan contre bilan. On verra les 4 ans de Donald Trump et les 4 ans de Biden. Là, on parlera maintenant chiffres, on parlera bilan. Et c'est comme ça que le jeu sert. Mais au niveau du Parti républicain, que Donald Trump ne se présente pas, nous avons l'alternative. Nous avons des candidats comme le sénateur Tim Scott, nous avons des gens comme le gouverneur Ron DeSantis. Ce sont des gens valables qui peuvent prendre la relève. Mais là n'est pas le cas, là n'est pas encore le nouveau cas. Mais parlons même des accusations ici. Le procès ne peut se passer qu'après 2024, dont le président sera déjà investi. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'enjeu. Et les partis républicains, les partis démocrates, et en débat d'âge, ils veulent que le président Trump ne se présente pas. Et même s'il ne se présentait pas, nous avons l'alternative et les candidats qui vont bien battre le président Biden en 2024.
On n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais demander au professeur Mboy, comment est-ce que tout ce qui se passe en ce moment devrait être vu au-delà des frontières américaines, par exemple en Afrique. Donnez-nous un peu une lecture, disons, internationale de ce qu'on est en train de vivre ici.
Tout d'abord, je voudrais donner une lecture un peu plus intime. Ma mère me disait, quand je grandissais, que lorsqu'on vous accuse de quelque chose, il faut toujours dire « je ne l'ai pas fait », plutôt que de dire « je n'étais pas le seul à le faire ». Donc, une sorte de philosophie générale. Mais d'une manière générale, je pense que la leçon à retenir pour tous les pays du monde, c'est d'une part qu'il y a nécessité de cultiver une justice indépendante, forte et saine, qui puisse mettre en accusation toute personne qu'elle juge être en situation d'infraction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait que l'engouement populaire, le soutien populaire, ne soit pas un blanc-seing donné à un homme politique ou à un système politique ou à un parti politique pour manipuler les institutions et faire en sorte que ne soit appliqué que ce qui est en faveur de cet homme ou de ce parti ou de ce qui l'entoure. Et troisièmement, d'une manière générale, le jeu politique doit être clair et franc, avec une presse qui est capable de prendre parti, bien entendu, lorsqu'il s'agit de donner son opinion, son avis sur un candidat ou sur une politique, etc. Mais en même temps, d'éclairer l'opinion publique sur les dessous des affaires, sur les dossiers et la constitution de ces dossiers, et faire en sorte que les gens soient informés et correctement informés de l'enjeu pour pouvoir prendre des décisions.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de demander à Madame Marilyn Sefok et à Junior leur avis sur cette même question. Nous arrivons pratiquement au terme de ce Washington Forum, mais je promets qu'on reviendra sur les implications internationales, ou en tout cas les leçons à tirer de cet épisode, de ces épisodes judiciaires de l'ancien président, en tout cas ici aux États-Unis. Merci à tout le monde, merci à nos invités, à vous également qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe technique, à très bientôt. Au revoir.